Attention, on monte le son. Bienvenue sur PFM, émission Oh là là, quelle histoire Oscar, votre émission de podcast littéraire préférée, épisode 4.
Plongée dans l'aventure. D'histoire extraordinaire.
Aujourd'hui, au programme, on a des chroniques, un interview officiel de Maxime Fontaine et une lecture inédite de « Si je te mords, t'es mort » des Sémins de Madame Kouassny. Maintenant, voici notre première chronique avec Adam.
Salut, salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter Spy Family, écrit et illustré par Tatsuya Endo. C'est un shonen. J'ai aimé les personnages Anya, Yor et Lightforger. L'histoire parle d'une mission, mettre en prison Monsieur Desmond. Pour ça, le fils de Monsieur Desmond, Damien Desmond, parce que son père a volé 2 millions d'euros. Anya et Damien sont dans la même classe. Yor est une tueuse à gages et Lloyd, un espion. Anya fait de la télékinésie et peut lire dans les pensées. Je le conseille à partir de 8 ans. Je le conseille aussi pour l'action, le dessin très réaliste et j'ai bien aimé la lecture.
Merci Adam, ça me donne envie de lire. Allez, c'est parti pour la deuxième chronique, celle d'Esteban.
Je vais vous présenter Mortel Adèle. Attention, interdit aux amoureux des chats. Adèle est une petite fille, pas comme les autres. Elle a peur des trucs mignons et elle n'a pas peur de tuer son chat. Jade et Miranda sont ses pires ennemis. Comme elle le dit, des frétins de célébrer ses filles. J'adore cette série parce que je la trouve très drôle. Les illustrations sont de bonne qualité. Je vous le recommande à partir de 7 ans. N'oubliez pas, c'est Mortel Adèle.
Merci Esteban, c'était super. Enfin, l'interview tant attendue de l'auteur Maxime Fontaine par Gustave, Samuel et Joseph.
Bonjour Maxime Fontaine.
Et bienvenue sur notre émission littéraire Oh là là, quelle histoire Oscar.
Aujourd'hui, nous allons vous poser des questions sur votre métier.
Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, alors très bien. Moi, je m'appelle, donc déjà bonjour, bonjour tout le monde. Je m'appelle Maxime Fontaine. Donc en fait, je suis romancier, enseignant et puis dessinateur. Voilà, je fais un petit peu de tout ça. Voilà, ça fait à peu près 15 ans que je publie des livres en plus de mon métier de professeur.
Combien avez-vous publié de livres ?
À peu près une vingtaine. J'en ai fait un petit peu dans des genres assez différents, plutôt pour les enfants, plutôt la littérature jeunesse, même si en fait j'ai des livres qui sont des livres quasiment de première lecture, des livres avec quelques pages, très illustrés. Et sinon j'ai fait aussi une trilogie avec des gros bouquins de 500 pages, là qui sont plus ados, adultes on va dire. Donc ça va un petit peu de cet extrême-là jusqu'à l'autre extrême. Et là, depuis peu de temps, je me mets à la BD aussi, en tant que scénariste. C'est très sympa aussi, c'est un autre exercice.
Quelle histoire préférez-vous dans les vôtres et en général ?
Alors, ça fait deux questions. Alors, dans les miennes, je vais dire, j'ai une affection particulière pour Soria Nesh, qui est un enquêteur qui a la capacité de se transformer en personnage de la littérature classique. Donc, c'est-à-dire, en fonction de ses enquêtes, il devient Sherlock Holmes, Dracula, Arsène Lupin, Cyrano de Bergerac. Alors, j'aime bien ce personnage-là particulièrement parce que ça me permet d'écrire un petit peu plein de styles d'histoires différentes dans une même histoire. Je m'explique. Par exemple, quand Soria Nesh se transforme lors d'une enquête, il devient pendant quelques instants Sherlock Holmes, donc j'ai l'impression d'écrire un petit peu à la Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, et tout d'un coup, trois chapitres plus loin, il va se transformer en par exemple en Barbe Noire, donc ça va devenir tout d'un coup une histoire de pirate, et puis après, voilà, il va encore se transformer il va se transformer en Orla, qui est un personnage de Maupassant, c'est encore une autre façon de faire, ou bien il va se transformer en Cyrano de Bergerac. Alors Cyrano de Bergerac, c'est un bretteur, c'est un épéiste qui va se... Comment, qui va parler en vers, donc ça me permet encore d'écrire d'une autre façon. Donc Sorian Neige particulièrement, je l'aime beaucoup. Et sinon, j'aime beaucoup aussi les personnages de et les histoires de sorciers. C'est une grande trilogie que je viens de finir d'écrire. Ça m'a pris 3 ans. C'est à peu près 1500 pages et je les aime beaucoup parce que ils sont tirés d'un jeu de rôle que je faisais quand j'étais plus jeune. Voilà. Et sur les histoires en général, j'aime bien plein de choses. C'est ça qui est terrible, c'est que j'aime bien les romans, j'aime bien les BD, les mangas, les séries. Donc, c'est très compliqué de dire. Je peux citer par exemple des choses très différentes comme Gaston Lagaffe qui va me faire beaucoup rire, One Piece qui est une BD d'aventure que j'aime beaucoup, ou en littérature, je vais parler de Victor Hugo, quoi, L'homme qui rit, Notre-Dame de Paris. Juste pour citer quelques histoires, mais il y a tellement, tellement d'histoires super intéressantes.
En quoi consiste votre métier ?
Alors, mon métier, ça consiste à déjà trouver une idée que je vais originale, un concept qui va, par exemple, justement, sur Sorian, c'est trouver l'idée que c'est un personnage qui va se transformer en différents personnages de la littérature. Et ensuite, une fois qu'on a l'idée, il faut inventer des personnages autour. On en leur invente des caractères, des qualités, des défauts, voilà. Une fois qu'on a nos personnages, on va faire l'histoire en elle-même, les péripéties aussi, parce qu'il faut qu'il y ait du suspense. Une fois qu'on a l'histoire globale, on va la découper en chapitres. Donc pareil, c'est un travail en fait, la construction d'une histoire. Et après, une fois qu'on a cette histoire bien construite, on peut passer à la rédaction. Donc j'écris. Et ça, c'est ce qui prend le plus de temps. C'est-à-dire que ça peut prendre... allez, pour les petits bouquins comme Chance et Celsius, je peux le faire en une semaine, 15 jours, parce que c'est vraiment des petits livres. Et sinon, pour Sorcier, je vais prendre 6 mois, parce que il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à écrire. Et une fois qu'on a écrit, on se relit aussi, parce qu'on a fait des fautes. Vous savez ce que c'est, hein. Et donc, on se corrige, quelquefois on a des meilleures idées en route. Donc voilà, c'est toutes ces étapes-là, en fait. Et après, on soumet le manuscrit à une maison d'édition, un éditeur ou une éditrice avec lesquels on travaille. Et après, s'ils aiment bien, ça fait un livre qu'on publie en librairie.
Combien gagnez-vous par mois ? Mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre.
En fait, ça dépend vachement. Quand on est auteur, on a d'abord une avance sur droit, c'est-à-dire que quand tu signes un contrat, tu vas avoir 2000, 3000, 4000 euros, tu vois, et c'est pas énorme, hein, vu le travail qu'on fait. Et après, en fait, c'est en fonction de ton chiffre de vente, c'est-à-dire plus tu as vendu d'exemplaires d'un livre et plus tu vas avoir de sous. Alors on touche pas beaucoup sur un livre, hein. Par exemple sur un bouquin qui est à 15 euros, je touche 1 euro, donc faut en vendre beaucoup pour que ça rapporte beaucoup. Et donc souvent on est entre donc on n'a pas un revenu fixe, on a un revenu qui est alors on a des rentrées d'argent de temps en temps, puis des périodes où on gagne rien parce qu'on est voilà, on a déjà su de l'argent pour autre chose. Mais en fait toute la gymnastique, c'est d'avoir déjà d'autres idées pour d'autres livres et pour pouvoir gagner un peu d'argent plus tard, voilà.
Pourquoi écrivez-vous?
Alors parce que j'ai trop d'histoires dans la tête, sans doute, tu vois, donc au bout d'un moment ça déborde. ça déborde, ça sort de partout, donc au bout d'un moment faut l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Il y en a qui le font d'une autre façon. Mon frère Romain Watson, il est plutôt musicien, et donc lui il le fait plus par les chansons, mais moi je le fais plus par les bouquins, voilà. Chacun, il y en a certains qui vont faire plus par le dessin, voilà, chacun sa façon de s'exprimer. Je pense qu'on a tous un peu des idées, des histoires, tout ça, et certains plus que d'autres, on a besoin vraiment de les communiquer, les exprimer. Et c'est toujours plus sympa quand on les partage avec d'autres.
Quelles études avez-vous faites ?
Qu'est-ce que j'ai fait comme études ? J'ai fait des études de... Alors, à la base, j'ai fait au lycée, j'ai fait des études plutôt de maths, mais j'aimais pas trop ça. mais c'était les études qu'on faisait quand on était bon élève, parce que j'étais plutôt bon élève. Et puis après, je suis parti en prépa littéraire, ici à Arras. Ensuite, comme je me suis bien débrouillé, j'ai été accepté sur Paris. Donc, j'ai fini mes études littéraires sur Paris. Et puis après, je suis revenu sur Arras, parce que la vie parisienne, c'est très particulier. Je connaissais pas grand monde. Donc voilà, j'ai fait des études de lettres, surtout des études de lettres, et puis j'ai continué jusqu'à ma maîtrise de lettres.
Quel est votre personnage préféré dans Chance et Celsius et dans Sorian Neige tome 1?
Alors, dans Chance et Celsius, alors j'aime bien en fait la dynamique qu'il y a entre Chance et Celsius. Donc, je vais dire en même temps Chance et Celsius, parce que Celsius, c'est celui qui est le plus rigolo, parce que c'est celui qui va faire des bêtises, et voilà, il va faire plein de choses marrantes par lesquelles l'intrigue va arriver. Et Chance, c'est la grande sœur qui est plus sage, qui est plus l'héroïne, un peu droite. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est leur dynamique, en fait. C'est-à-dire que lui, il va perturber un petit peu l'ordre, et puis elle va essayer de remettre de l'ordre là-dedans. Et puis ensemble, ça va... Ce qui est rigolo, c'est ça, c'est leur interaction. C'est ensemble, ils vont avoir des répliques amusantes, parce que c'est l'un et l'autre. Puis après, bon, il y a toute une série de personnages qui sont marrants dans Chance et Celsius. Ce qui était rigolo, c'était d'inventer un peu tout un peuple avec... on peut un peu tout mettre. On peut mettre des vampires, des cow-boys, des sphinx, des diablotins. C'est ça qui est marrant dans Chance et Celsius. C'est un grand fourre-tout, mais un fourre-tout rigolo. Et dans Soria Nash, alors j'ai bien aimé jouer avec des personnages qui existent déjà, comme Sherlock Holmes, Cyrano de Bergerac, tout ça, qui sont des personnages très connus. C'est rigolo de pouvoir jouer avec les créations d'autres. Et sinon, mon personnage préféré, c'est Soria Nash, parce que c'est une sorte de couteau suisse. Il va se transformer en quelques mots, il va devenir complètement quelqu'un d'autre. Et c'était amusant aussi de lui inventer une sorte de passé nébuleux, parce qu'en fait, il y a une double enquête souvent dans Soria Nash, c'est-à-dire qu'il y a l'enquête sur laquelle l'agence s'envisage et les employés de Soria Nash vont travailler, et il y a aussi l'enquête sur Soria Nash, c'est-à-dire que les assistants de Soriane enquêtent sur lui, parce qu'il est plein de mystères. On sait pas comment il a eu tous ses pouvoirs, on sait pas comment, pourquoi il se transforme, d'où est-ce qu'il vient, quelle est son histoire. Donc en fait, au fur et à mesure des romans, en plus des histoires principales, on va dire, les assistants de Soriane connaissent de plus en plus ses secrets. Et voilà, et ça, c'était super intéressant à écrire. C'est super intéressant d'écrire des personnages mystérieux comme ça, qui se dévoilent petit à petit au fur et à mesure des intrigues.
Qui a fait l'illustration de Soria Nash ?
Alors, Soria Nash, c'est un illustrateur qui s'appelle Biboun, qui bosse surtout dans le jeu de société. Voilà, donc il fait bon, il a travaillé un petit peu dans de l'animation aussi. C'est quelqu'un que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré. Il travaille à Montpellier, donc vraiment au sud de la France, alors que nous on est bien au nord. Et bon, alors parfois moi je fais souvent des salons du livre le week-end, c'est-à-dire que je vais un petit peu dans toute la France pour signer les livres, mais lui je ne l'ai jamais, alors, et de temps en temps ça me permet de rencontrer des illustrateurs, des illustratrices. Mais lui, je ne l'ai jamais rencontré. En fait, c'est notre maison d'édition. Soria Nash, il est chez Gulfstream. Et donc, c'est Gulfstream qui connaissait un petit peu le travail de Biboun et qui s'est dit, voilà, ça irait très bien avec ton texte, Maxime. Et j'ai dit, parfait, ça, c'est super. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait. Et voilà, donc on a un petit peu correspondu par les réseaux sociaux, par mail. Mais c'est quelqu'un que je, malheureusement, que je n'ai jamais encore rencontré. J'espère le rencontrer parce qu'il a l'air super sympa. Et il bosse super bien, j'adore ce qu'il fait. Quand on a des couvertures signées par Biboun, on est trop content.
Merci d'avoir répondu aux questions et à bientôt.
Avec plaisir.
Super, c'était très intéressant. Et une dernière chronique pour la route ? Oui, voici Léna Lou.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter L'Arabe du futur 1, écrit par Riyad Satouf. Ce livre est inspiré d'une histoire vraie, car le personnage principal est l'auteur de ce livre. Ce livre raconte l'histoire de Riyad, un petit garçon, qui a un père arabe et une mère française. Son père va habiter en Syrie et sa mère accepte de le suivre. Son père va devenir riche, mais ses parents vont se séparer. Sa mère va tomber malade et il y aura d'autres péripéties. J'aime beaucoup ces livres car il y a de l'aventure et du rebondissement. Il y a 6 tomes, donc 6 histoires géniales. Ce livre est une bande dessinée et c'est souvent très drôle car l'histoire est racontée du point de vue d'un petit garçon qui grandit à travers les 6 tomes. Je recommande ce livre à partir de 9 ou 10 ans. N'oubliez pas, c'est Riyad Satouf dans L'Arabe du futur.
Et maintenant, voilà l'histoire à écouter. Guettez bien vos oreilles, les CE1 vont nous lire... « Si je te mords, t'es mort » de Pierre Delibes.
Si je te mords, t'es mort. Une histoire racontée par Pierre Delibes et illustrée par Cécile Utrissier. Édition Didier Jeunesse. Ce jour-là, il fait beau comme il faut. Il fait chaud, mais pas trop. Au milieu de la savane, un lion se pavane.
Il n'a peur de personne et tout le monde a peur de lui. Il est grand, il est beau, il est fort, il est roi, il le sait. C'est un lion fier d'être lui-même.
Soudain, un sifflement sinistre monte d'en dessous de lui. « Si tu bouges, je te mords. Et si je te mords, t'es mort. »
Le lion se statifie. Cette sifflante voix le pétrifie. Elle appartient à une espèce de serpent sinueux, sournois et surtout mortel. Le lion ne bouge plus, patte en l'air et l'air bête. Le temps passe, la savane s'épanouit autour de lui et le lion craque, il n'en peut plus ne plus bouger.
Il baisse la tête et voit le serpent. Il comprend tout de suite la menace. Ce serpent-ci a tout l'air de vouloir mordre d'abord et de réfléchir après.
Serpent, demande circonspect, le roi des animaux, pourquoi voulez-vous me mordre, moi, le lion, qui ne vous ai rien fait et qui n'avait rien prévu de vous faire? C'est parce que tout le monde dit que c'est toi le plus fort. Or, c'est moi le plus fort. Si tu bouges, je te mords. Et si je te mords, t'es mort.
C'est normal que je sois le plus fort puisque je suis le roi. Et c'est normal que je sois le roi puisque je suis le plus fort. C'est évident, une évidence, cela s'admet. Non, le serpent pense, le lion pose et les minutes se prennent pour des heures. J'ai réfléchi, dit le serpent. Si tu bouges, je te mords. Et si je te mords, t'es mort.
Le lion, ne voyant pas comment s'en sortir, se remue les méninges. Serpent, voici ma proposition. Faisons un sondage. Interrogeons les trois premiers que nous croiserons et demandons-leur qui est le plus fort. S'ils répondent que c'est vous, je reconnaîtrai votre supériorité. Et s'ils disent que c'est moi, eh ben, nous aviserons. D'accord ? Soit qu'il en soit ainsi.
Le lion s'éloigne, suivi du serpent qui ne lâche pas une semelle. Impossible pour lui de s'enfuir. Ils finissent par débusquer une gazelle toute frêle. Comme elle manque de s'évanouir, le lion la rassure à sa façon.
Gazelle, ce n'est pas l'heure de manger mais de répondre. À votre avis, du serpent ou de moi, qui est le plus fort? Oh, pour moi vous êtes aussi terrible l'un que l'autre. Avec vous, qui se sauve survit.
Et sur ces bonnes paroles, la gazelle prend la fuite et ne la lâche plus. Le lion se retourne vers le serpent et s'exclame. Elle a raison, nous sommes aussi forts l'un que l'autre, d'accord?
Non, si tu bouges, t'es mort. Et si je te mords, t'es mort.
Le lion soupire et repart suivi du serpent entêté. Un peu plus loin, il déniche une dame zèbre aux grands yeux sombres et humides. Elle tremble tellement qu'elle en est toute grise. C'est encore le lion qui part.
Zèbre, n'ayez pas peur, ce n'est pas l'heure de manger, mais de répondre. Du serpent ou de moi, qui est le plus fort? Eh bien, monsieur le lion, répond la zèbre, qui a retrouvé son calme et ses rayures. Vous savez, morsure de l'un ou morsure de l'autre, avec vous, c'est la morsure. Alors que si l'on se sauve, on est sauvé. Le serpent et le lion regarde disparaître la zèbre.
Tu vois, dit le lion, ils sont tous d'accord et moi aussi. Tombons la sinette, serpent, et séparons-nous. Non, si tu bouges, je te mords. Et si je te mords, t'es mort, c'est tout.
Le lion résigné, accompagné du serpent obtus, repart à la recherche du troisième avis. Ils finissent par trouver un éléphant. C'est moins difficile qu'à trouver qu'une fraise des bois.
Le lion, comme d'habitude, prend la parole. Éléphant, n'aie pas peur.
J'ai pas peur.
Exact. J'aimerais que tu me dises qui est le plus fort.
C'est moi.
C'est juste, mais écoute toute la question, s'il te plaît.
Qui est le plus fort?
C'est moi. C'est vrai, mais tu t'es tué, toi.
Je te demande qui est le plus fort entre moi et le serpent sadique ici présent. L'éléphant, de peur de se tromper, réfléchit et finit par barrer.
Ce moi. Le lion livide et le serpent dépité s'éloignent et se remettent en quête d'un autre troisième avis.
Celui-ci se présente bientôt. Le lion n'a jamais vu ce petit animal. Il a une drôle d'allure et une bonne tête avec des yeux bien brillants. Mais le roi des animaux n'en peut plus. Il attaque direct. Bon, toi,
Je ne t'ai jamais vu. T'es qui ? Demande-t-il sans remarquer que le serpent cherche soudain à se faire discret.
Je suis la mangouste. Oh roi, langouste ? Non, mangouste avec un M comme majesté, sire. Répond-elle en lorgnant le serpent qui essaie de se cacher derrière un bâton. Bien, mangouste, j'ai une question. Du serpent ou de moi ? Qui est le plus fort ? Pour moi, votre Altesse, quand vous êtes là, vous êtes le plus terrible et sans conteste le plus fort de tous les animaux. Le serpent, lui, je ne le crains pas, je l'adore.
Pardon ? Oh oui, je les aime les serpents, surtout les venimeux, ce sont les plus goûteux. Le lion, épaté, se retourne et voit le serpent piteux qui essaie de s'esquiver. Hop là, reptile, où rampes-tu donc ? Dis, si je suis plus fort que la mangouste et qu'elle est plus forte que toi, alors je suis plus fort que toi. Logique, non ?
Le serpent désespéré fait demi-tour et fonce vers le lion. Non, si tu bouges, cette fois le lion en a par-dessus la crinière, il bondit hors de portée et dit « Mangouste, voici un petit encas pour votre creux. Oh, merci, sire. Avec plaisir, sire. » Aussitôt, la mangouste se met à danser autour du serpent. Elle le fait tourner en bourrique, lui trouble la vue. Il a beau l'attaquer, il ne mord que la poussière. Elle est trop rapide pour lui. Elle le déboussole, le fatigue. Quand il n'en peut plus, elle le chope derrière la tête et d'un coup de dent, crac, elle le tue. Puis elle le croque avec un air ravi de gourmandise satisfaite. Lorsqu'elle a fini, le lion ébahi se décide enfin à parler. « Eh bien, merci ma chère mangouste de m'avoir débarrassée de ce petit inconvénient. » La mangouste salue et s'éloigne. Quand elle est suffisamment loin, elle se retourne. « Dites-moi, ô roi, si vous êtes si fort, pourquoi ne vous êtes-vous pas vous-même débarrassé du serpent ?» Un roi sans ses sujets ne serait-il qu'un verbe sans complément ?
Ce soir-là, dans la savane, le lion ne se pavane plus. Il a eu chaud, mais il a eu aussi froid dans le dos. Il se demande s'il est vraiment le plus fort. Et le plus fort à quoi, d'abord ? Il marche en regardant où il pose les pattes, de peur de retomber sur un os, une épine ou une autre question.
Merci à vous.
C'était la classe de CM2 et de CE1 pour Oh là là, quelle histoire Oscar. On se retrouvera au prochain épisode. Au revoir.